propose trois choses qui vont vraiment structurer le monachisme occidental. La mortification n'est pas un but, mais un moyen. Donc le jeûne, par exemple, ne doit pas affaiblir au point de ne pas pouvoir prier. Et vous avez un bel exemple de ça avec Ignace qui s'était planté sur les bords du Cardener, là près de Barcelone. Quand il jeûnait, justement, et comme il était un peu excessif, il jeûnait tellement qu'il a fini par avoir des hallucinations. Il a même eu, finalement, au milieu de ses hallucinations, il a fini par percevoir que c'était le diable qui le tentait, enfin, qui l'avait poussé à, comment dire, à jeûner trop pour se détruire, en fait. Et en même temps, en se détruisant, non seulement corporellement, mais spirituellement, parce qu'il en tirait orgueil, parce qu'il jeûnait plus que les autres.
C'était pas une hallucination.
Ah, c'est
Non, ce n'était pas une hallucination, mais c'était au milieu d'hallucinations. Il y avait une sorte de grand papillon, de trucs,
un
enfin,
papillon.
de trucs
Vous avez fait un
lumineux.
rose.
Enfin, oui, c'est. Tu prends quelques champignons dans ses serres. Et puis, deuxièmement, la mortification doit être secrète et pas publique. Alors là, pensez au monachisme syrien, où vous avez le type au sommet de sa colonne, et tout le monde vient le voir, y compris l'empereur, enfin, etc. La mortification doit être secrète. Et troisièmement, contre les excès, la mesure. Et ça, la mesure, la discrétio, ça sera un des éléments fondamentaux de la règle de Saint Benoît, qui va être ensuite. Voilà, qui va être opposé, par exemple, aux excès du monachisme irlandais.
Mais même certaines prosternations, je crois qu'elles devraient être secrètes.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses. Et là, on va beaucoup utiliser la parole de Jésus. Quand tu jeûnes, voilà, parfume-toi la tête. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, etc. Donc, de ne pas se donner en spectacle comme les pharisiens et les scribes, là, comme dit justement l'Évangile. Donc ça, c'est, si vous voulez, un petit peu la manière dont des Occidentaux vont se rendre. On verra, Jérôme fera la même chose. Il partira en Orient, il fondera son monastère en Orient, et puis là aussi, il va. Et on va sentir très vite que les Occidentaux. Revenant avec tout ce butin, enfin, on peut dire, ils ont butiné dans les différents monastères, et ils reviennent avec tout ce pollen-là, et ils vont l'organiser. Ça, c'est quand même typiquement la mentalité romaine, disons. Même s'ils ne sont pas tous des Latins d'origine, mais ils sont tous des Occidentaux, enfin des Européens romanisés. Et après, on va avoir des règles qui vont s'en suivre. Avant même évidemment celle de Saint Benoît. Alors, parlons maintenant d'un autre latin qui est Prudence. 348-410, voyons encore un peu de choses près, un contemporain de Saint Augustin. Alors, c'est un poète. Alors, Prudence était un avocat. Alors il s'appelait, je sais plus quoi, Prudentius Clemens. Il était avocat jusqu'en 405. Alors il a écrit des passions et des hymnes pour les heures du jour. Et des hymnes qui sont toujours utilisés dans le bréviaire. Y compris dans le nouveau bréviaire de Paul VI, enfin dans sa version latine. Et aussi une psychomachie, alors ça, un combat de l'âme, hein, donc c'est une sorte de pièce de théâtre, de mystère, où les vertus, les vices sont personnalisés. Et donc, il y a toute une dramaturgie de la lutte des vertus et des vices dans l'âme. C'est
C'est bien.
vraiment quelque chose qui se développera, enfin, d'ailleurs, qui sera présent. On voit ça chez Calderón, chez les grands auteurs espagnols du siècle d'or. Mais même par exemple Hugo von Hofmannsthal, on refera vivre ça dans Jedermann, ça vous dit quelque chose, Jedermann? Eh bien, dans Jedermann, vous avez l'âme qui est tentée entre les par des passions, et puis il y a les vertus, alors sous forme de personnages, de trucs comme ça. Et enfin, il y a toute une dramaturgie qui est. C'est un petit peu les mystères de nos cathédrales aussi. Hein. Donc, alors, parmi ces poèmes, il y en a quelques-uns. Alors que vous entendez parfois dans le. Par exemple, on pourrait prendre Magi Videntes. Alors voilà, je le lis dans la traduction. Les mages, voyant cet enfant, se prosternent pour l'adorer, offrant les dons de l'Orient, l'encens, la myrrhe et l'or des rois. Regarde, enfant, les signes clairs de ton règne et de tes pouvoirs. Le père t'a prédestiné à une triple dignité. Le trésor proclame le roi. L'encens du pays de Saba manifeste que tu es Dieu. La myrrhe annonce le tombeau. Ô Bethléem, grande cité au-dessus des grandes cités, d'avoir engendré le Sauveur venu du ciel pour s'incarner. Les prophètes en sont garants, comme l'attestent leurs écrits. Le Père envoie son héritier prendre possession de ses biens. Sa royauté sur l'univers, sur les airs, la terre et les mers, du soleil levant au couchant, des enfers au plus haut des cieux. Et puis après, il y a une doxologie. Donc voilà un exemple de. Mais il avait fait aussi des. Il y en a d'autres, par exemple. Allez, on va en lire quelques-unes d'autres. C'est Ales Diei Nuncius. L'oiseau qui annonce le jour chante la lumière prochaine. Déjà nous appelle à la vie le Christ éveilleur de nos âmes. C'est pour les matines. Quittez, clame-t-il, votre lit d'oisif, d'assoupi, de malade. Soyez chaste, sobre et droit. Veillez, car déjà je suis proche. Quand le ciel sera parsemé des premiers éclats de l'aurore, que naisse un espoir de clarté pour tous ceux qu'une épreuve afflige. Appelons Jésus de nos voix. Pleurons, prions et soyons sobres. Un cœur pur ne saurait dormir lorsque sa prière est fervente. Dissipe le sommeil, ô Christ, de notre nuit brise les chaînes, libère-nous du vieux péché, mets en nous la clarté nouvelle. Ô Christ, roi plein de bonté, gloire à toi et gloire à ton Père, avec l'esprit consolateur à travers l'infini des siècles. C'est pas mal, c'est de la bonne poésie, non? Alors. Si on lisait en latin et qu'on se souvenait de toutes nos, de tout ce qu'on a appris en métrique, en etc., évidemment, peut-être on goûterait davantage en commun. Mais prenons encore Nox et Ténébré. Alors ça, c'est une hymne des Laudes. Nuits et ténèbres et nuages, confusion et trouble du monde, éloignez-vous. La clarté vient, le ciel pâlit, le Christ est là. L'ombre sur terre se déchire, le soleil la perce de flèches, et l'astre au visage éclatant rend sa couleur à chaque objet. Bientôt la noirceur de nos âmes et nos cœurs chargés de leurs fautes, quand l'obscurité cédera, blanchiront au règne de Dieu. Christ, que seul nous voulons connaître, c'est toi d'une âme simple et pure que nous apprenons à prier, pleurant et chantant à genoux. Veille, Seigneur, sur nos pensées, examine bien tous nos actes, ta lumière peut démasquer l'hypocrisie de notre cœur. Ô Christ, roi plein d'indulgence, gloire à toi et gloire à ton Père avec l'Esprit consolateur à travers les siècles sans fin. Donc, vous voyez, c'est une mise en parallèle de l'obscurité de la nuit et de l'obscurité du péché, donc de la lumière qui vient dissiper les ténèbres, comme le Christ vient par sa grâce dissiper les péchés enfin les péchés, disons, les fautes de notre âme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore ? Sol ecce surgit, qui probablement doit être à peu près la même chose. Voilà encore une hymne des Laudes. Vois surgir le soleil de feu, honte, repentir, contrition. Nul ne peut pécher hardiment quand la lumière en est témoin. Ça, c'est pas fou. Hein. Que cesse enfin l'aveuglement qui nous a longtemps dévoyés, en faisant trébucher nos pas jusqu'à la chute dans l'erreur. En nous prenant dans sa clarté, que ce beau jour nous rende purs. Point d'artifice en nos discours, n'agitons en nous rien d'obscur. Que tout le jour s'écoule ainsi, sans propos menteurs, que nos mains et nos yeux se gardent du mal, sans faute qui souille nos corps. Dieu nous observe de là-haut, il nous regarde chaque jour, il voit devant lui nos actions depuis l'aurore jusqu'au soir. Et puis après, toujours la même doxologie. Donc voilà une autre hymne du matin. On pourrait en citer d'autres, hein. Il y en a une dizaine qui sont conservées dans le bréviaire, dans l'hymnaire. Il y en a d'autres qui viennent de Saint Ambroise, de Venance Fortuna, à Bâtonnet, de Venance Fortuna. On en avait parlé, je crois, une fois déjà de lui. La plus impressionnante, c'est celle qu'on a c'est celle de la passion, en fait. Hein. Alors, c'est celui aussi qui nous a donné l'office de Venance Fortuna, l'office de l'hymne des matines du commun de la Vierge Marie. Celui que tout, flot, terre et ciel, honore, vénère et proclame, celui qui régit l'univers, une femme le porte en elle. Tous les astres, lune et soleil, à travers les âges le servent. Comblé par la grâce du ciel, le sein de la Vierge l'enfante. Mère bénie par ce présent, en toi le Créateur céleste qui tient le monde dans sa main, fut enclos comme dans une arche. Bénie de l'envoyé du ciel, l'Esprit Saint t'a rendu féconde, toi dont le ventre a mis au jour celui que désiraient les peuples. Toute gloire à toi, ô Jésus, à toi qui es né de la Vierge, même gloire au Père, à l'Esprit, à travers l'infini des siècles. Voilà, donc encore une autre hymne. Et puis, voilà, l'heure est arrivée. Ring, ring. Alors, du coup, allez, je vous en ai encore une dernière. On va prendre...
Il reste encore une minute.
Voilà. Celle-là. Alors, c'est le Pange Lingua.
C'est pas lui, ça.
Alors, si, pas celui de Saint Thomas, qui est pour la fête du Saint-Sacrement, mais celui qui est pour la Semaine Sainte. Chante ma langue le combat, la glorieuse lutte. Sur le trophée de la croix, proclame le noble triomphe. Le Rédempteur du monde fut vainqueur en s'immolant. Attristé de l'égarement de notre premier Père, qui tomba dans la mort en mordant le fruit néfaste, le Créateur choisit lui-même un arbre pour réparer la malédiction de l'arbre. Cette œuvre de salut, l'ordre divin l'exigeait, pour vaincre par la ruse multiforme du malin, et porter le remède d'où venait la blessure. Oui, sans arrêt des contrastes... Quand vint donc la plénitude du temps, le Fils, Créateur du monde, fut envoyé d'auprès du Père. Il s'avança, devenu chair dans un sein virginal. Alors, 30 années achevées, en fait c'est 5 lustres. 5 lustres achevés, au terme de sa vie corporelle, il se livre volontairement à la passion pour laquelle il était né. L'agneau est élevé en croix pour être immolé sur le bois. Et puis après, la doxologie au Père et à son Fils et à l'illustre Consolateur, à l'heureuse Trinité, gloire égale et éternelle, car sa grâce bienfaisante nous rachète et nous sauve. Et puis, l'hymne qui suit des Laudes, hein, toujours pour la Passion, c'est En Acetum. Voici vinaigre, fiel, roseau, crachat, clou et lance. Le doux corps est transpercé, le sang et l'eau ruissellent. Terre, mer, astre et monde, quel fleuve vous lave. Croix fidèle, arbre unique, noble entre tous. Nulle forêt n'en produit d'autel avec ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Douceur du bois, douceur du clou, qui porte un si doux fardeau. Fléchis tes branches, grand arbre, relâche le corps tendu, assouplis la dureté reçue de la nature. Aux membres du roi des cieux, offre un appui plus doux. Toi seul as mérité de porter la rançon du monde et de lui préparer un havre après son naufrage. Toi qui fus oint du sang sacré jailli du corps de l'agneau. Et puis donc la doxologie. C'est ce qu'on chante, vous savez, pendant l'adoration de la croix, le Vendredi Saint. Mm-hmm. Et vous voyez comment aussi la mélodie aussi magnifie le texte de Venans Fortuna. Alors, moi quand j'entends ça, moi, ça me...